pour Historama, l'histoire d'un jour. Aujourd'hui, le 28 avril 1969, Charles de Gaulle quitte l'Élysée. Le dimanche 20 avril 1969, 7 jours avant le référendum sur la participation, la régionalisation et la réforme du Sénat, le général de Gaulle, après avoir assisté à la messe célébrée dans la petite chapelle de l'Élysée par son neveu, le père François de Gaulle, reçoit ses enfants dans ses appartements privés, comme à son habitude quand il ne réside pas à colomber les deux églises. Il leur confesse sa certitude de la défaite au référendum. Le mercredi 23 avril, Charles de Gaulle sait qu'il préside son ultime conseil des ministres. Les délibérations sont brèves. L'ordre du jour est de pure routine. Avant de prendre place à la table du conseil, il en fait lentement, comme toujours, le tour pour serrer les mains des membres du gouvernement. Il est impassible. Une phrase seulement rappelle la gravité de l'heure. Au moment de prendre congé, il dit simplement « Nous nous réunirons en principe mercredi prochain. Nous avons en effet l'espoir de nous retrouver la semaine prochaine. S'il n'en était pas ainsi, ce serait un chapitre de l'histoire de France qui serait terminé. » Le soir même, à 18h, le président de la République donne audience comme chaque jour à ses 4 principaux collaborateurs. Bernard Tricot, secrétaire général de l'Élysée. Jacques Foccart, secrétaire général à l'Élysée pour les affaires africaines et malgaches. Xavier de la Chevalerie, directeur de cabinet, et le général Lalande, chef de l'état-major particulier. Il précise ses instructions à exécuter dès le dimanche suivant vers 21h, quand les résultats de la consultation électorale seront évidents. Déménager les archives dans la nuit, celles qui le concernent personnellement et celles de ses collaborateurs. Les déposer provisoirement rue de Solferino, dans le bureau qu'il occupait avant son retour au pouvoir en 1958. Lundi à midi, tous les conseillers techniques et chargés de mission de l'Élysée auront quitté le palais. Enfin, il précise que Jacques Foccart demeurera à sa place, rue de Grenelle, siège du secrétariat général pour les affaires africaines et malgaches. Le jeudi 24 avril, le Premier ministre Maurice Couve de Murville rencontre le général qui lui expose les conditions de son départ. Il lui fait part de ses dernières directives et lui annonce que Bernard Tricot lui fera parvenir lundi matin le communiqué annonçant son départ et une lettre personnelle. Le vendredi 25 avril à 11h, Charles de Gaulle enregistre son ultime appel, qui sera diffusé à la radio et à la télévision le soir même à 20h. À 13h45, il monte avec son épouse dans la voiture qui le conduit à colomber les deux églises. À 16h30, la déesse présidentielle franchit la grille de la Boisserie. Le général passe la journée du samedi dans la plus parfaite solitude, sans quitter sa résidence, sans donner ni recevoir un seul coup de téléphone. Le dimanche matin, pour éviter les journalistes qui cernent la Boisserie et les nombreux curieux qui l'attendent à l'église, il entend la messe dans le salon où un autel est dressé. À 11h35, il arrive à la mairie pour y accomplir son devoir électoral. Dans l'attente du résultat du scrutin, il est seul dans son bureau, encombré de souvenirs de la France libre. « Vous m'appellerez dimanche soir dès votre première impression », a-t-il dit à Bernard Tricot juste avant son départ de l'Élysée. C'est ce que fait le secrétaire général pour annoncer au chef de l'État les fourchettes électorales présageant la victoire du non. « Vous me rappellerez vers 22h », lui dit le général, avant de raccrocher. À l'heure dite, il donne à Bernard Tricot de nouvelles instructions. « J'ai changé d'avis. Le communiqué annonçant que je cesserai d'exercer mes fonctions lundi à midi ne doit pas être publié demain à 11h comme il était entendu, mais aussitôt après minuit. À l'Élysée se déroulent dans le calme les préparatifs du départ. Chacun dans son bureau achève le tri de ses papiers et déménage ses dossiers personnels. Vers 22 heures, la plupart des collaborateurs du général se retrouvent bouleversés autour d'un buffet. Seul le cabinet de travail du chef de l'État, plongé dans l'obscurité, reste fermé. Plusieurs secrétaires pleurent. Vers 23 heures, Bernard Tricot fait parvenir à Maurice Coupe de Murville les deux documents laissés à son intention. Dans la lettre qui lui est adressée, Charles de Gaulle remercie le Premier ministre. « Je vous donne témoignage du concours tout à fait éminent et à tous égards excellent que vous m'avez apporté comme Premier ministre pour le service de notre pays, après l'avoir fait comme ministre des Affaires étrangères. Il fait part ensuite de la profonde estime et du cordial attachement à tous les membres du gouvernement qui ont autour de vous porté la charge des affaires publiques avec tant de distinction et de dévouement. » Le lundi 28 avril à 0h10, l'agence France-Presse publie « Le général de Gaulle communique « Je cesse d'exercer mes fonctions de président de la République. Cette décision prend effet aujourd'hui à midi. » Une grande animation règne toute la matinée à l'Élysée, où les collaborateurs du général ne cachent pas leur profonde tristesse. Les gardes républicains procèdent au dernier déménagement pour permettre à Alain Poher, président du Sénat, de s'installer dès midi dans le palais présidentiel. Une camionnette est partie pour colomber les deux églises, chargée des affaires personnelles du couple présidentiel. À 11h30, Bernard Tricot réunit dans la salle des fêtes le personnel de la présidence de la République. Il tient le discours suivant. Le général de Gaulle est parti sans que les circonstances lui aient permis de vous recevoir. Tout à l'heure, au téléphone, il m'a chargé de vous faire connaître son regret de n'avoir pu vous dire au revoir ou adieu. Il m'a chargé aussi de vous exprimer son affection fidèle. Nous voici tous et chacun seul et isolé. Je pense que dans ces moments, nous devons agir comme il l'eût souhaité. Je pense que nous devons rester dignes, discrets, attachés à la loyauté, à la continuité de l'État et que nous devons continuer à servir au maximum notre pays. Nous retrouvons Historama et la chronique littéraire, Un jour trois livres. Après une pause musicale, c'est Jacques Dutronc qui nous accompagne en chanson durant cette émission. Nous écoutons un titre de 1967. Il est 5 heures, Paris s'éveille.
Je suis le dauphin de la place Dauphine et la place Blanche à mauvaise mine. Les camions sont pleins de lait, les balayeurs sont pleins de balais. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les travestis vont se raser, les stripteaseuses sont raviés. Les traversins sont écrasés, les amoureux sont fatigués. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Le café est dans les tasses, les cafés nettoient leur glace. Et sur le boulevard Montparnasse, la gare n'est plus qu'une carcasse. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les banlieusards sont dans les gares, à la Villette on tranche le lard. Paris by night regagne l'écart, les boulangers font des bâtards. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. tour Eiffel, à froid aux pieds, l'arc de triomphe est rallumé. Et l'obélisque est bien dressé entre la nuit et la journée. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les journaux sont imprimés, les ouvriers sont déprimés. Les gens se lèvent, ils sont brimés, c'est l'heure où je vais me coucher. Il est 5 heures, Paris se lève. Il est 5 heures, je n'ai pas sommeil.
Historama, la chronique littéraire, un jour trois livres consacrés au général de Gaulle en cette année tout à fait particulière de commémoration qu'est 2020, 130e anniversaire de sa naissance, 80e anniversaire de l'appel du 18 juin et 50e anniversaire de son décès. Commençons par Colombey, l'autre colline inspirée, excellent livre de Philippe Le Guillou aux éditions Salvator. Dans cet ouvrage touchant, Philippe Le Guillou relate ses pèlerinages à Colombey les deux églises, dans la Champagne humide entre les terroirs de Jeanne d'Arc et de Bernard de Clairvaux, un lieu qui invite à l'introspection et à la méditation. L'auteur exprime sa profonde affection et admiration pour l'homme du 18 juin. Il évoque la boisserie, ancienne brasserie, acquise en viager en 1934, qui constitue un havre pour Charles et Yvonne de Gaulle et leur fille Anne, affectée par la trisomie. Il évoque la salle à manger avec sa lourde table de monastère et surtout le bureau, où le général se consacre à ses travaux d'écriture. L'ermite de Colombey n'accueille que de rares visiteurs. Michel Debray, Georges Pompidou et Maurice Couve de Murville, ses chefs de gouvernement successifs, ou André Malraux, reçu le 11 décembre 1969 pour un ultime entretien relaté dans les chaînes qu'on abat. Les 14 et 15 septembre 1958, le chancelier Konrad Adenauer réside à la boisserie pour initier la réconciliation franco-allemande. Philippe Le Guillou témoigne avec émotion de l'église paroissiale et son cimetière attenant où repose le père de la Ve République. Il rapporte également ses entretiens avec l'agriculteur René Piot, la dernière personne reçue par le général quelques heures avant son trépas, et le restaurateur Gérard Nathalie, l'un des 12 jeunes hommes désignés pour porter le cercueil du chef de la France libre lors de ses obsèques. Le 12 novembre 1970. Dans les dernières pages de l'ouvrage, Philippe Le Guillou mentionne sa rencontre avec notre ami Lionel Courteau, bien connu des auditeurs de Radio Judaïca, qui, à l'automne 2019, mit en scène au Théâtre de l'Épée de Bois à Vincennes Le Crépuscule, un dialogue singulier entre Charles de Gaulle et son ami très cher André Malraux. Colombey, l'autre colline inspirée, de Philippe Le Guillou aux éditions Salvator et je vous le recommande très chaudement. De Gaulle, vu par les écrivains, de Jean-Claude Perrier, c'est aux éditions La Table Ronde, des éditions La Table Ronde qui réédite dans la collection La Petite Vermillon ce De Gaulle vu par les écrivains, paru il y a 20 ans. Dans cette anthologie, Jean-Claude Perrier propose une trentaine de textes laudateurs ou critiques qui évoquent le général, ainsi le lecteur se promène en littérature, de Louis Aragon à Stéphane Zagdanski, en passant par Albert Camus, Jean Dutour, Romain Gary, André Malraux, François Mauriac ou Denis Tillinac. Denis Tillinac qui nous laisse peu avant de décéder, il est mort le 26 septembre dernier, ce dictionnaire amoureux du général paru aux éditions Plomb, un remarquable ouvrage où le turiféraire de la Corrèze, ami de Jacques Chirac, y clame sa passion pour le grand homme, Je vous recommande tout particulièrement l'occurrence consacrée à l'écrivain Charles de Gaulle et à son rapport à la littérature. L'auteur évoque la fascination du général pour François-René de Chateaubriand et l'amitié singulière qui le lie à André Malraux. Au cœur de l'ouvrage, le texte consacré à Napoléon et de Gaulle est fascinant. Ce livre est indispensable à tous ceux et celles qui vouent une admiration à l'homme du 18 juin. Dictionnaire amoureux du général, c'est aux éditions Plomb et c'est signé Denis Tillinac. Je crois que c'est son avant-dernier opus qui, avant son décès le 26 septembre dernier, décès subit, en Côte d'Or, en marge d'un salon littéraire auquel il participait. Voilà pour cette émission Historama. Merci à Lucas qui l'a réalisée. Et nous nous quittons en chanson avec toujours Jacques Dutronc. Nous écoutons un autre titre de 1967, J'aime les filles.
Castel, j'aime les filles de chez Régine, j'aime les filles qu'on voit dans elle, j'aime les filles des magazines, j'aime les filles de chez Renault, j'aime les filles de chez Citroën, j'aime les filles des hauts fourneaux, j'aime les filles qui travaillent dans la chaîne. Papa, j'aime les filles de l'autre, j'aime les filles sans papa, j'aime les filles de Megève, j'aime les filles de Saint-Tropez, j'aime les filles qui font la grève, j'aime les filles qui vont camper. J'aime les filles de Camaret, j'aime les filles intellectuelles, j'aime les filles qui font marrer, j'aime les filles qui font vieille France, j'aime les filles de cinéma, j'aime les filles de l'assistance, j'aime les filles dans l'embarras. Si vous êtes comme ci, téléphonez-moi. Si vous êtes comme ça, we'll be right back.